Il y a dans le violon, qui ne voyant pas l'instrument, on ne peut pas rapporter ce qu'on entend à son image, laquelle modifie la sonorité, des accents qui lui sont si communs avec certaines voix de contralto, qu'on a l'illusion qu'une chanteuse s'est ajoutée au concert. On lève les yeux, on ne voit que les étuis, précieux comme des boîtes chinoises, mais par moments on est encore trompé par l'appel décevant de la sirène. Parfois on croit entendre un génie captif qui se débat au fond de la docte boîte, ensorcelée et frémissante, comme un diable dans un bénitier. Parfois enfin c'est dans l'air comme un être surnaturel et pur qui passe en déroulant son message invisible. Comme si les instrumentistes beaucoup moins jouaient la petite phrase qu'ils n'exécutaient les rites exigés d'elle pour qu'elle apparût et procédaient aux incantations nécessaires pour obtenir et prolonger quelques instants le prodige de son évocation, Swann, qui ne pouvait pas plus la voir que si elle avait appartenu à un monde ultraviolet, et qui goûtait comme le rafraîchissement d'une métamorphose dans la cécité momentanée dont il était frappé en approchant d'elle, Swann la sentait présente comme une déesse protectrice et confidente de son amour, et qui, pour pouvoir arriver jusqu'à lui devant la foule et l'emmener à l'écart pour lui parler, avait revêtu le déguisement de cette apparence sonore. Et tandis qu'elle passait, légère, apaisante et murmurée comme un parfum, lui disant ce qu'elle avait à lui dire et dont il scrutait tous les mots, regrettant de les voir s'envoler si vite, il faisait involontairement avec ses lèvres le mouvement de baiser au passage le corps harmonieux et fuyant. Il ne se sentait plus exilé et seul, puisque elle, qui s'adressait à lui, lui parlait à mi-voix d'Odette, car il n'avait plus, comme autrefois, l'impression qu'Odette et lui n'étaient pas connus de la petite phrase. C'est que si souvent elle avait été témoin de leur joie, il est vrai que souvent aussi, elle l'avait averti de leur fragilité. Et même alors que dans ce temps-là il devinait de la souffrance dans son sourire, dans son intonation limpide et désenchantée, aujourd'hui il y trouvait plutôt la grâce d'une résignation presque gaie. De ces chagrins dont elle lui parlait autrefois, et qu'il la voyait, sans qu'il fût atteint par eux, entraîné en souriant dans son cours sinueux et rapide, de ses chagrins qui maintenant étaient devenus les siens sans qu'il eût l'espérance d'en être jamais délivré, elle semblait lui dire, comme jadis de son bonheur, « Qu'est-ce cela ? Tout cela n'est rien. » Et la pensée de Swann se porta pour la première fois, dans un élan de pitié et de tendresse, vers ce Vinteuil, vers ce frère inconnu et sublime, qui lui aussi avait dû tant souffrir. Qu'avait pu être sa vie? Au fond de quelle douleur avait-il puisé cette force de Dieu, cette puissance illimitée de créer? Quand c'était la petite phrase qui lui parlait de la vanité de ses souffrances, Swann trouvait de douceur à cette même sagesse qui tout à l'heure pourtant lui avait paru intolérable quand il croyait la lire dans les visages des indifférents qui considéraient son amour comme une divagation sans importance. C'est que la petite phrase, au contraire, quelque opinion qu'elle pût avoir sur la brève durée de ses états de l'âme, y voyait quelque chose, non pas comme faisaient tous ces gens de moins sérieux que la vie positive, mais au contraire de si supérieur à elle que seul il valait la peine d'être exprimé. Ces charmes d'une tristesse intime, c'était eux qu'elle essayait d'imiter, de recréer, et jusqu'à leur essence, qui est pourtant d'être incommunicable et de sembler frivole à tout autre qu'à celui qui les éprouve, la petite phrase l'avait captée, rendue visible. Si bien qu'elle faisait confesser leur prix et goûter leur douceur divine par tous ces mêmes assistants, si seulement ils étaient un peu musiciens, qui ensuite les méconnaîtrait dans la vie en chaque amour particulier qu'ils verraient naître près d'eux. Sans doute la forme sous laquelle elle les avait codifiés ne pouvait pas se résoudre en raisonnement. Mais depuis plus d'une année que, lui révélant à lui-même bien des richesses de son âme, l'amour de la musique était pour quelque temps au moins né en lui, Swann tenait les motifs musicaux pour de véritables idées, d'un autre monde, d'un autre ordre, idées voilées de ténèbres, inconnues, impénétrables à l'intelligence, mais qui n'en sont pas moins parfaitement distinctes les unes des autres, inégales entre elles de valeur et de signification. Quand après la soirée Verdurin se faisant rejouer la petite phrase, il avait cherché à démêler comment, à la façon d'un parfum, d'une caresse, elle le circonvenait, elle l'enveloppait, il s'était rendu compte que c'était au faible écart entre les cinq notes qu'il a composées et au rappel constant de deux d'entre elles qu'était due cette impression de douceur rétractée et frileuse. Mais en réalité, il savait qu'il raisonnait ainsi non sur la phrase elle-même, mais sur de simples valeurs, substituées pour la commodité de son intelligence à la mystérieuse entité qu'il avait perçue avant de connaître les Verdurin, à cette soirée où il avait entendu pour la première fois la sonate. Il savait que le souvenir même du piano faussait encore le plan dans lequel il voyait les choses de la musique, que le chant ouvert aux musiciens n'est pas un clavier mesquin de sept notes, mais un clavier incommensurable, encore presque tout entier inconnu, ou seulement çà et là, séparé par d'épaisses ténèbres inexplorées, quelques-unes, des millions de touches de tendresse, de passion, de courage, de sérénité, qui le composent, chacune aussi différente des autres qu'un univers d'un autre univers, ont été découvertes par quelques grands artistes, qui nous rendent le service en éveillant en nous le correspondant du thème qu'ils ont trouvé, de nous montrer quelle richesse, quelle variété, cache à notre insu cette grande nuit impénétrée et décourageante de notre âme que nous prenons pour du vide et pour du néant. Vinteuil avait été l'un de ces musiciens. En sa petite phrase, quoiqu'elle présentât à la raison une surface obscure, on sentait un contenu si consistant, si explicite, auquel elle donnait une force si nouvelle, si originale, que ceux qui l'avaient entendu la conservaient en eux de plein pied avec les idées de l'intelligence. Swann s'y reportait comme à une conception de l'amour et du bonheur, dont immédiatement il savait aussi bien en quoi elle était particulière qu'il le savait pour la princesse de Clèves ou pour René, quand leur nom se présentait à sa mémoire. Même quand il ne pensait pas à la petite phrase, elle existait latente dans son esprit, au même titre que certaines autres notions sans équivalent, comme les notions de la lumière, du son, du relief, de la volupté physique, qui sont les riches possessions dont se diversifie et se pare notre domaine intérieur. Peut-être les perdrons-nous, peut-être s'effaceront-elles si nous retournons au néant. Mais tant que nous vivons, nous ne pouvons pas plus faire que nous ne les ayons connus, que nous ne le pouvons pour quelque objet réel, que nous ne pouvons, par exemple, douter de la lumière de la lampe qu'on allume devant les objets métamorphosés de notre chambre, d'où s'est échappé jusqu'au souvenir de l'obscurité. Par là, la phrase de Vinteuil avait, comme tel thème de Tristan, par exemple, qui nous représente aussi une certaine acquisition sentimentale, épouser notre condition mortelle, pris quelque chose d'humain qui était assez touchant. Son sort était lié à l'avenir, à la réalité de notre âme, dont elle était un des ornements les plus particuliers, les mieux différenciés. Peut-être est-ce le néant qui est le vrai, et tout notre rêve est-il inexistant ? Mais alors nous sentons qu'il faudra que ces phrases musicales, ces notions qui existent par rapport à lui, ne soit rien non plus. Nous périrons, mais nous avons pour otage ces captives divines qui suivront notre chance, et la mort avec elles a quelque chose de moins amer, de moins inglorieux, peut-être de moins probable. Swann n'avait donc pas tort de croire que la phrase de la sonate exista réellement. Certes humaine à ce point de vue, elle appartenait pourtant à un ordre de créatures surnaturelles et que nous n'avons jamais vues, mais que malgré cela nous reconnaissons avec ravissement quand quelque explorateur de l'invisible arrive à en capter une, à l'amener du monde divin où il a accès, briller quelques instants, au-dessus d'une autre. C'est ce que Vinteuil avait fait pour la petite phrase. Swann sentait que le compositeur s'était contenté avec ses instruments de musique de la dévoiler, de la rendre visible, d'en suivre et d'en respecter le dessin d'une main si tendre, si prudente, si délicate et si sûre, que le son s'altérait à tout moment, s'estompant pour indiquer une ombre, revivifié quand il lui fallait suivre à la piste un plus hardi contour. Et une preuve que Swann ne se trompait pas quand il croyait à l'existence réelle de cette phrase, c'est que tout amateur un peu fin se fut tout de suite aperçu de l'imposture, si Vinteuil, ayant eu moins de puissance pour en voir et en rendre les formes, avait cherché à dissimuler, en ajoutant ça et là des traits de son cru, les lacunes de sa vision ou les défaillances de sa main. Elle avait disparu. Swann savait qu'elle reparaîtrait à la fin du dernier mouvement, après tout un long morceau que le pianiste de Madame Verdurin sautait toujours. Il y avait là d'admirables idées que Swann n'avait pas distinguées à la première audition et qu'il percevait maintenant, comme si elles se fussent dans le vestiaire de sa mémoire, débarrassées du déguisement uniforme de la nouveauté. Swann écoutait tous les thèmes épars qui entreraient dans la composition de la phrase, comme les prémices dans la conclusion nécessaire. Il assistait à sa genèse. Audace aussi géniale peut-être, se disait-il, que celle d'un Lavoisier, d'un Ampère, l'audace d'un Vinteuil, expérimentant, découvrant les lois secrètes d'une force inconnue, menant à travers l'inexploré vers le seul but possible, l'attelage invisible auquel il se fie, et qu'il n'apercevra jamais. Le beau dialogue que Swann entendit entre le piano et le violon au commencement du dernier morceau. La suppression des mots humains, loin d'y laisser régner la fantaisie, comme on aurait pu croire, l'en avait éliminé. Jamais le langage parlé ne fut si inflexiblement nécessité, ne connut à ce point la pertinence des questions, l'évidence des réponses. D'abord, le piano solitaire se plaignit comme un oiseau abandonné de sa compagne. Le violon l'entendit, lui répondit comme d'un arbre voisin. C'était comme au commencement du monde, comme s'il y avait encore eu que deux sur la terre, ou plutôt dans ce monde fermé à tout le reste, construit par la logique d'un créateur, où il ne serait jamais que tous les deux, cette sonate. Est-ce un oiseau? Est-ce l'âme incomplète encore de la petite phrase? Est-ce une fée? Cet être invisible et gémissant dont le piano ensuite redisait tendrement la plainte? Ces cris étaient si soudains que le violoniste devait se précipiter sur son archet pour les recueillir. Merveilleux oiseau! Le violoniste semblait vouloir le charmer, l'apprivoiser, le capter. Déjà il avait passé dans son âme, déjà la petite phrase évoquée, agitée comme celui d'un médium, le corps vraiment possédé du violoniste. Swann savait qu'elle allait parler une fois encore, et il s'était si bien dédoublé que l'attente de l'instant imminent où il allait se retrouver en face d'elle le secoua d'un de ces sanglots qu'un beau vers ou une triste nouvelle provoque en nous, non pas quand nous sommes seuls, mais si nous les apprenons à des amis en qui nous nous apercevons comme un autre dont l'émotion probable les attendrit. Elle reparut, mais cette fois pour se suspendre dans l'air et se jouer un instant seulement comme immobile et pour expirer après. Aussi Swann ne perdait-il rien du temps si court où elle se prorogeait. Elle était encore là comme une bulle irisée qui se soutient, tel un arc-en-ciel dont l'éclat faiblit, s'abaisse, puis se relève, et avant de s'éteindre, s'exalte un moment comme il n'avait pas encore fait. Aux deux couleurs qu'elle avait jusque-là laissées paraître, elle ajouta d'autres cordes diaprées, toutes celles du prisme, et les fit chanter. Swann n'osait pas bouger, et aurait voulu faire tenir tranquille aussi les autres personnes, comme si le moindre mouvement avait pu compromettre le prestige surnaturel, délicieux et fragile, qui était si près de s'évanouir. Personne, à dire vrai, ne songeait à parler. La parole ineffable d'un seul absent, peut-être d'un mort, Swann ne savait pas si Vinteuil vivait encore, s'exhalant au-dessus des rides des officiants, suffisait à tenir en échec l'attention de 300 personnes et faisait de cette estrade où une âme était ainsi évoquée un des plus nobles autels où pût s'accomplir une cérémonie surnaturelle. De sorte que quand la phrase se fut enfin défaite, flottant en lambeaux dans les motifs suivants qui déjà avaient pris sa place, si Swann au premier instant fut irrité de voir la comtesse de Montérandère, célèbre par ses naïvetés, se pencher vers lui pour lui confier ses impressions avant même que la sonate fût finie, il ne put s'empêcher de sourire, et peut-être de trouver aussi un sens profond qu'elle n'y voyait pas, dans les mots dont elle se servit. Émerveillée par la virtuosité des exécutants, la comtesse s'écria en s'adressant à Swann. « C'est prodigieux, je n'ai jamais rien vu d'aussi fort. » Mais un scrupule d'exactitude lui faisant corriger cette première assertion, elle ajouta cette réserve « Rien d'aussi fort depuis les tables tournantes. » À partir de cette soirée, Swann comprit que le sentiment qu'Odette avait eu pour lui ne renaîtrait jamais, que ses espérances de bonheur ne se réaliseraient plus. Et les jours où, par hasard, elle avait encore été gentille et tendre avec lui, si elle avait eu quelque attention, il notait ses signes apparents et menteurs d'un léger retour vers lui, avec cette sollicitude attendrie et sceptique, cette joie désespérée, de ceux qui, soignant un ami arrivé au dernier jour d'une maladie incurable, relatent comme des faits précieux. Hier, il a fait ses comptes lui-même, et c'est lui qui a relevé une erreur d'addition que nous avions faite. Il a mangé un œuf avec plaisir. S'il le digère bien, on essaiera demain d'une côtelette. Quoiqu'il les sache dénués de signification, à la veille d'une mort inévitable. Sans doute, Swann était certain que s'il avait vécu maintenant loin d'Odette, elle aurait fini par lui devenir indifférente. De sorte qu'il aurait été content qu'elle quittât Paris pour toujours. Il aurait eu le courage de rester, mais il n'avait pas celui de partir. Il en avait eu souvent la pensée. Maintenant qu'il s'était remis à son étude sur Vermeer, il aurait eu besoin de retourner au moins quelques jours à La Haye, à Dresde, à Brunswick. Il était persuadé qu'une toilette de Diane qui avait été achetée par le Morici à la vente Goldschmidt comme un Nicolas Mahé était en réalité de Vermeer, et il aurait voulu pouvoir étudier le tableau sur place pour étayer sa conviction. Mais quitter Paris pendant qu'Odette y était, et même quand elle était absente, car dans les lieux nouveaux où les sensations ne sont pas amorties par l'habitude, On retrempe, on ranime une douleur. C'était pour lui un projet si cruel qu'il ne se sentait capable d'y penser sans cesse que parce qu'il se savait résolu à ne l'exécuter jamais. Mais il arrivait qu'en dormant, l'intention du voyage renaissait en lui. Sans qu'il se rappelât que ce voyage était impossible, et elle s'y réalisait. Un jour, il rêva qu'il partait pour un an, penché à la portière du wagon vers un jeune homme qui, sur le quai, lui disait adieu en pleurant. Swann cherchait à le convaincre de partir avec lui. Le train s'ébranlant, l'anxiété le réveilla, il se rappela qu'il ne partait pas, qu'il verrait Odette ce soir-là, le lendemain et presque chaque jour. Alors, encore tout ému de son rêve, il bénit les circonstances particulières qui le rendaient indépendant, grâce auxquelles il pouvait rester près d'Odette et aussi réussir à ce qu'elle lui permît de la voir quelquefois. Et récapitulant tous ses avantages, sa situation, sa fortune dont elle avait souvent besoin pour ne pas reculer devant une rupture, ayant même, disait-on, une arrière-pensée de se faire épouser par lui. Cette amitié de M. de Charlus, qui à vrai dire ne lui avait jamais fait obtenir grand-chose de dette, mais lui donnait la douceur de sentir qu'elle entendait parler de lui d'une manière flatteuse, par cet ami commun pour qui elle avait une si grande estime, et jusqu'à son intelligence enfin, qu'il employait tout entière à combiner chaque jour une intrigue nouvelle, qui rendit sa présence sinon agréable, du moins nécessaire à Odette. Il songea à ce qu'il serait devenu si tout cela lui avait manqué. Il songea que s'il avait été, comme tant d'autres, pauvre, humble, dénué, obligé d'accepter toute besogne ou lié à des parents, à une épouse, il aurait pu être obligé de quitter Odette, que ce rêve, dont l'effroi était encore si proche, aurait pu être vrai. Et il se dit, on ne connaît pas son bonheur. On n'est jamais aussi malheureux qu'on croit. Mais il compta que cette existence durait déjà depuis plusieurs années, que tout ce qu'il pouvait espérer, c'est qu'elle durât toujours, qu'il sacrifierait ses travaux, ses plaisirs, ses amis, finalement toute sa vie, à l'attente quotidienne d'un rendez-vous qui ne pouvait rien lui apporter d'heureux. Et il se demanda s'il ne se trompait pas, si ce qui avait favorisé sa liaison et en avait empêché la rupture n'avait pas desservi sa destinée. Si l'événement désirable, ce n'aurait pas été celui dont il se réjouissait tant qu'il n'eût eu lieu qu'en rêve, son départ. Il se dit qu'on ne connaît pas son malheur, qu'on n'est jamais si heureux qu'on croit. Quelquefois, il espérait qu'elle mourrait sans souffrance dans un accident. Elle qui était dehors, dans les rues, sur les routes, du matin au soir. Et comme elle revenait saine et sauve, il admirait que le corps humain fût si souple et si fort, qu'il pût continuellement tenir en échec, déjouer tous les périls qui l'environnent, et que Swann trouvait innombrables, depuis que son secret désir les avait supputés, et permis ainsi aux êtres de se livrer chaque jour, et à peu près impunément, à leur œuvre de mensonge, à la poursuite du plaisir. Et Swann sentait bien près de son cœur ce Mahomet II, dont il aimait le portrait par Bellini, et qui, ayant senti qu'il était devenu amoureux fou d'une de ses femmes, la poignarda, afin, dit naïvement son biographe vénitien, de retrouver sa liberté d'esprit. Puis il s'indignait de ne penser ainsi qu'à soi, et les souffrances qu'il avait éprouvées lui semblaient ne mériter aucune pitié, puisque lui-même faisait si bon marché de la vie d'Odette. Ne pouvant se séparer d'elle sans retour, du moins s'il l'avait vue sans séparation, sa douleur aurait fini par s'apaiser, et peut-être son amour par s'éteindre. Et du moment qu'elle ne voulait pas quitter Paris à jamais, il eût souhaité qu'elle ne le quittât jamais. Du moins, comme il savait que la seule grande absence qu'elle faisait était tous les ans celle d'août et septembre, il avait le loisir, plusieurs mois d'avance, d'en dissoudre l'idée amère dans tout le temps à venir qu'il portait en lui, par anticipation, et qui, composée de jours homogènes aux jours actuels, circulait transparent et froid en son esprit, où il entretenait la tristesse, mais sans lui causer de trop vives souffrances. Mais cet avenir intérieur, ce fleuve incolore et libre, voici qu'une seule parole d'Odette venait l'atteindre jusqu'en Swann, et comme un morceau de glace l'immobilisait, durcissait sa fluidité, le faisait geler tout entier. Et Swann s'était senti soudain rempli d'une masse énorme et infrangible qui pesait sur les parois intérieures de son être jusqu'à le faire éclater. C'est qu'Odette lui avait dit, avec un regard souriant et sournois qu'il observait, « Forcheville va faire un beau voyage à la Pentecôte, il va en Égypte. » Et Swann avait aussitôt compris que cela signifiait « Je vais aller en Égypte, à la Pentecôte, avec Forcheville. » Et en effet, si quelques jours après Swann lui disait « Voyons, à propos de ce voyage que tu m'as dit que tu ferais avec Forcheville, » elle répondait étourdiment « Oui, mon petit, nous partons le 19. On t'enverra une vue des pyramides. » Alors il voulait apprendre si elle était la maîtresse de Forcheville. Le lui demandait à elle-même. Il savait que, superstitieuse comme elle était, il y avait certains parjures qu'elle ne ferait pas. Et puis la crainte qu'il avait retenue jusqu'ici d'irriter Odette en l'interrogeant, de se faire détester d'elle, n'existait plus maintenant qu'il avait perdu tout espoir d'en être jamais aimé. Un jour, il reçut une lettre anonyme qui lui disait qu'Odette avait été la maîtresse d'innombrables hommes, dont on lui citait quelques-uns, parmi lesquels Forcheville, M. de Bréauté et le peintre, de femmes, et qu'elle fréquentait les maisons de passe. Il fut tourmenté de penser qu'il y avait parmi ses amis un être capable de lui avoir adressé cette lettre, car par certains détails elle révélait chez celui qui l'avait écrite une connaissance familière de la vie de Swann. Il chercha qui cela pouvait être, mais il n'avait jamais eu aucun soupçon des actions inconnues des êtres, de celles qui sont sans lien visible avec leurs propos. Et quand il voulut savoir si c'était plutôt sous le caractère apparent de M. de Charlus, de M. Delhomme, de M. d'Orsan, qu'il devait situer la région inconnue où cet acte ignoble avait dû naître, comme aucun de ces hommes n'avait jamais approuvé devant lui les lettres anonymes, et que tout ce qu'il lui avait dit impliquait qu'il les réprouvait, il ne vit pas plus de raison pour relier cette infamie plutôt à la nature de l'un que de l'autre. Celle de M. de Charlus était un peu d'un détraqué, mais foncièrement bonne et tendre. Celle de M. Delhomme un peu sèche, mais saine et droite. Quant à M. d'Orsan, Swann n'avait jamais rencontré personne qui, dans les circonstances même les plus tristes, vint à lui avec une parole plus sentie, un geste plus discret et plus juste. C'était au point qu'il ne pouvait comprendre le rôle peu délicat qu'on prêtait à M. d'Orsan dans la liaison qu'il avait avec une femme riche, et que chaque fois que Swann pensait à lui, il était obligé de laisser de côté cette mauvaise réputation inconciliable avec tant de témoignages certains de délicatesse. Un instant, Swann sentit que son esprit s'obscurcissait, et il pensa à autre chose pour retrouver un peu de lumière. Puis il eut le courage de revenir vers ses réflexions. Mais alors, après n'avoir pu soupçonner personne, il lui fallut soupçonner tout le monde. Après tout, M. de Charlus l'aimait, avait bon cœur, mais c'était un névropathe. Peut-être demain pleurerait-il de le savoir malade, et aujourd'hui, par jalousie, par colère, sur quelque idée subite qui s'était emparée de lui, avait-il désiré lui faire du mal? Au fond, cette race d'hommes est la pire de toutes. Certes, le prince des Laumes était bien loin d'aimer Swann autant que M. de Charlus, mais à cause de cela même, il n'avait pas avec lui les mêmes susceptibilités. Et puis c'était une nature froide, sans doute, mais aussi incapable de vilainie que de grandes actions. Swann se repentait de ne s'être pas attaché dans la vie qu'à de tels êtres. Puis il songeait que ce qui empêche les hommes de faire du mal à leur prochain, c'est la bonté, qu'il ne pouvait au fond répondre que de natures analogues à la sienne, comme était, à l'égard du cœur, celle de M. de Charlus. La seule pensée de faire cette peine à Swann eût révolté celui-ci. Mais avec un homme insensible, d'une autre humanité, comme était le prince des Laumes, comment prévoir à quels actes pouvait le conduire, démobile d'une essence différente? Avoir du cœur, c'est tout, et M. de Charlus en avait. M. d'Orson n'en manquait pas non plus, et ses relations cordiales, mais peu intimes avec Swann, nées de l'agrément que, pensant de même sur tout, ils avaient à causer ensemble, était de plus de repos que l'affection exaltée de M. de Charlus, capable de se porter à des actes de passion, bons ou mauvais. S'il y avait quelqu'un par qui Swann s'était toujours senti compris et délicatement aimé, c'était par M. d'Orson. Oui, mais cette vie peu honorable qu'il menait, Swann regrettait de n'en avoir pas tenu compte, d'avoir souvent avoué en plaisantant qu'il n'avait jamais éprouvé si vivement des sentiments de sympathie et d'estime que dans la société d'une canaille. Ce n'est pas pour rien, se disait-il maintenant, que depuis que les hommes jugent leur prochain, c'est sur ses actes. Il n'y a que cela qui signifie quelque chose, et nullement ce que nous disons, ce que nous pensons. Charlus et Delaune peuvent avoir tel ou tel défaut, ce sont d'honnêtes gens. Orson n'en a peut-être pas, mais ce n'est pas un honnête homme. Il a pu mal agir une fois de plus. Puis Swann soupçonna Rémy, qu'il est vrai n'aurait pu qu'inspirer la lettre. Mais cette piste lui parut un instant la bonne. D'abord, Laurédan avait des raisons d'en vouloir à Odette. Et puis comment ne pas supposer que nos domestiques, vivant dans une situation inférieure à la nôtre, ajoutant à notre fortune et à nos défauts des richesses et des vices imaginaires, pour lesquels ils nous envient et nous méprisent, se trouveront fatalement amenés à agir autrement que des gens de notre monde. Il soupçonna aussi mon grand-père. Chaque fois que Swann lui avait demandé un service, ne le lui avait-il pas toujours refusé? Puis avec ses idées bourgeoises, il avait pu croire agir pour le bien de Swann. Celui-ci soupçonna encore Bergotte, le peintre, les Verdurin, admira une fois de plus au passage la sagesse des gens du monde, de ne pas vouloir frayer avec ces milieux artistes où de telles choses sont possibles, peut-être même avouer sous le nom de bonne farce. Mais il se rappelait des traits de droiture de ses bohèmes et les rapprocha de la vie d'expédient presque d'escroquerie où le manque d'argent, le besoin de luxe, la corruption des plaisirs conduisent souvent l'aristocratie. Bref, cette lettre anonyme prouvait qu'il connaissait un être capable de scélératesse, mais il ne voyait pas plus de raison pour que cette scélératesse fût cachée dans le tuf, inexploré d'autrui, du caractère de l'homme tendre que de l'homme froid, de l'artiste que du bourgeois, du grand seigneur que du valet. Quel critérium adopter pour juger les hommes ? Au fond, il n'y avait pas une seule des personnes qu'il connaissait qui ne pût être capable d'une infamie. Fallait-il cesser de les voir toutes? Son esprit se voila. il passa deux ou trois fois ses mains sur son front, essuya les verres de son lorgnon avec son mouchoir. Et songeant qu'après tout, des gens qui le valaient fréquentaient M. de Charlus, le prince des Laumes et les autres, il se dit que cela signifiait, sinon qu'ils fussent incapables d'infamie, du moins que c'est une nécessité de la vie, à laquelle chacun se soumet, de fréquenter des gens qui n'en sont peut-être pas incapables. Et il continua à serrer la main de tous ses amis qu'il avait soupçonnés, avec cette réserve de pur style qu'ils avaient peut-être cherché à le désespérer. Quant au fond même de la lettre, il ne s'en inquiéta pas, car pas une des accusations formulées contre Odette n'avait l'ombre de vraisemblance. Swann, comme beaucoup de gens, avait l'esprit paresseux et manqué d'invention. Il savait bien, comme une vérité générale, que la vie des êtres est pleine de contrastes, mais pour chaque être en particulier, il imaginait toute la partie de sa vie qu'il ne connaissait pas comme identique à la partie qu'il connaissait. Il imaginait ce qu'on lui taisait à l'aide de ce qu'on lui disait. Dans les moments où Odette était auprès de lui, s'ils parlaient ensemble d'une action indélicate commise ou d'un sentiment indélicat éprouvé par un autre, elle les flétrissait en vertu des mêmes principes que Swann avait toujours entendu professer par ses parents et auxquels il était resté fidèle. Et puis elle arrangeait ses fleurs, elle buvait une tasse de thé, elle s'inquiétait des travaux de Swann. Donc Swann étendait ses habitudes au reste de la vie d'Odette. Il répétait ses gestes quand il voulait se représenter les moments où elle était loin de lui. Si on la lui avait dépeinte telle qu'elle était, ou plutôt qu'elle avait été si longtemps avec lui, mais auprès d'un autre homme, il eût souffert, car cette image lui eût paru vraisemblable. Mais qu'elle alla chez des maquerelles, se livra à des orgies avec des femmes, qu'elle mena la vie crapuleuse de créatures abjectes, quelle divagation insensée à la réalisation de laquelle, Dieu merci, les chrysanthèmes imaginées, l'été successif, les indignations vertueuses ne laissaient aucune place. Seulement, de temps à autre, il laissait entendre à Odette que, par méchanceté, on lui racontait tout ce qu'elle faisait, et se servant à propos d'un détail insignifiant, mais vrai, qu'il avait appris par hasard, comme s'il était le seul petit bout qu'il laissa passer malgré lui, entre tant d'autres, d'une reconstitution complète de la vie d'Odette qu'il tenait cachée en lui, il l'amenait à supposer qu'il était renseigné sur des choses qu'en réalité il ne savait ni même ne soupçonnait. Car si bien souvent il adjurait Odette de ne pas altérer la vérité, c'était seulement, qu'il s'en rendît compte ou non, pour qu'Odette lui dît tout ce qu'elle faisait. Sans doute, comme il le disait à Odette, il aimait la sincérité, mais il l'aimait comme une proxénète pouvant le tenir au courant de la vie de sa maîtresse. Aussi son amour de la sincérité n'étant pas désintéressé, ne l'avait pas rendu meilleur. La vérité qu'il chérissait, c'était celle que lui dirait Odette. Mais lui-même, pour obtenir cette vérité, ne craignait pas de recourir au mensonge, le mensonge qu'il ne cessait de peindre à Odette comme conduisant à la dégradation toute créature humaine. En somme, il mentait autant qu'Odette, parce que, plus malheureux qu'elle, il n'était pas moins égoïste. Et elle, entendant Swann lui raconter ainsi à elle-même des choses qu'elle avait faites, le regardait d'un air méfiant, et à toute aventure, fâché, pour ne pas avoir l'air de s'humilier et de rougir de ses actes. Un jour, étant dans la période de calme la plus longue qu'il eût encore pu traverser sans être repris d'accès de jalousie, il avait accepté d'aller le soir au théâtre avec la princesse des Laumes. Ayant ouvert le journal pour chercher ce qu'on jouait, la vue du titre « Les filles de marbre » de Théodore Barrière le frappa si cruellement qu'il eut un mouvement de recul et détourna la tête. Éclairé comme par la lumière de la rampe, à la place nouvelle où il figurait, ce mot de marbre qu'il avait perdu la faculté de distinguer tant il avait l'habitude de l'avoir souvent sous les yeux, lui était soudain redevenu visible et l'avait aussitôt fait souvenir de cette histoire qu'Odette lui avait racontée autrefois, d'une visite qu'elle avait faite au salon du palais de l'industrie avec Madame Verdurin, et où celle-ci avait dit « Prends garde, je serai bien te dégeler, tu n'es pas de marbre. » Odette lui avait affirmé que ce n'était qu'une plaisanterie, et il n'y avait attaché aucune importance. Mais il avait alors plus de confiance en elle qu'aujourd'hui, et justement la lettre anonyme parlait d'amour de ce genre. Sans oser lever les yeux vers le journal, il le déplia, tourna une feuille pour ne plus voir ces mots, les filles de marbre, et commença à lire machinalement les nouvelles des départements. Il y avait eu une tempête dans la Manche, on signalait des dégâts à Dieppe, à Cabourg, à Beuzeval. Aussitôt il fit un nouveau mouvement en arrière. Le nom de Beuzeval l'avait fait penser à celui d'une autre localité de cette région, Beuzeville, qui porte, uni à celui-là par un trait d'union, un autre nom, celui de Bréauté, qu'il avait vu souvent sur les cartes, mais dont, pour la première fois, il remarquait que c'était le même que celui de son ami, M. de Bréauté, dont la lettre anonyme disait qu'il avait été l'amant d'Odette. Après tout, pour M. de Bréauté, l'accusation n'était pas invraisemblable. Mais en ce qui concernait Madame Verdurin, il y avait impossibilité. De ce qu'Odette mentait quelquefois, on ne pouvait conclure qu'elle ne disait jamais la vérité, et dans ses propos qu'elle avait échangés avec Madame Verdurin et qu'elle avait racontés elle-même à Swann, il avait reconnu ses plaisanteries inutiles et dangereuses que, par inexpérience de la vie et ignorance du vice, tiennent des femmes dont il révèle l'innocence, et qui, comme par exemple Odette, sont plus éloignées qu'aucune d'éprouver une tendresse exaltée pour une autre femme. Tandis qu'au contraire, l'indignation avec laquelle elle avait repoussé les soupçons qu'elle avait involontairement fait naître un instant en lui par son récit, cadrait avec tout ce qu'il savait des goûts, du tempérament de sa maîtresse. Mais à ce moment, par une de ses inspirations de jaloux, analogue à celle qui apporte au poète ou au savant qui n'a encore qu'une rime ou qu'une observation, l'idée ou la loi qui leur donnera toute leur puissance, Swann se rappela pour la première fois une phrase qu'Odette lui avait dite, il y avait déjà 2 ans. « Oh, Madame Verdurin, en ce moment, il n'y en a que pour moi. Je suis un amour, elle m'embrasse, elle veut que je fasse des courses avec elle, elle veut que je la tutoie. » Loin de voir alors dans cette phrase un rapport quelconque avec les absurdes propos destinés à simuler le vice que lui avait raconté Odette, il l'avait accueilli comme la preuve d'une chaleureuse amitié. Maintenant, voilà que le souvenir de cette tendresse de Madame Verdurin était venu brusquement rejoindre le souvenir de sa conversation de mauvais goût. Il ne pouvait plus les séparer dans son esprit, et les vit mêlés aussi dans la réalité. La tendresse donnant quelque chose de sérieux et d'important à ses plaisanteries, qui en retour lui faisaient perdre de son innocence. Il alla chez Odette, il s'assit loin d'elle. Il n'osait l'embrasser, ne sachant si en elle, si en lui, c'était l'affection ou la colère qu'un baiser réveillerait. Il se taisait, il regardait mourir leur amour. Tout à coup, il prit une résolution. « Odette, lui dit-il, mon chéri, je sais bien que je suis odieux, mais il faut que je te demande des choses. Tu te souviens de l'idée que j'avais eue à propos de toi et de Madame Verdurin? Dis-moi si c'était vrai, avec elle ou avec une autre. » Elle secoua la tête en fronçant la bouche, signe fréquemment employé par les gens pour répondre qu'ils n'iront pas, que cela les ennuie, à quelqu'un qui leur a demandé « Viendrez-vous voir passer la cavalcade? Assisterez-vous à la revue ?» Mais ce hochement de tête, affecté ainsi d'habitude à un événement à venir, mêle à cause de cela de quelque incertitude la dénégation d'un événement passé. De plus, il n'évoque que des raisons de convenance personnelle, plutôt que la réprobation, qu'une impossibilité morale. En voyant Odette lui faire ainsi le signe que c'était faux, Swann comprit que c'était peut-être vrai. « Je te l'ai dit, tu le sais bien, » ajouta-t-elle d'un air irrité et malheureux. « Oui, je sais, mais en es-tu sûr ? Ne me dis pas tu le sais bien. Dis-moi, je n'ai jamais fait ce genre de choses avec aucune femme. » Elle répéta comme une leçon sur un ton ironique et comme si elle voulait se débarrasser de lui. « Je n'ai jamais fait ce genre de choses avec aucune femme. Peux-tu me le jurer sur ta médaille de Notre-Dame de la Guée ?» Swann savait qu'Odette ne se parjurerait pas sur cette médaille-là. « Oh, que tu me rends malheureuse !» s'écria-t-elle en se dérobant par un sursaut à l'étreinte de sa question. « Mais as-tu bientôt fini ? Qu'est-ce que tu as aujourd'hui ? Tu as donc décidé qu'il fallait que je te déteste, que je t'exècre ? Voilà, je voulais reprendre avec toi le bon temps comme autrefois, et voilà ton remerciement. » Mais ne la lâchant pas comme un chirurgien attend la fin du spasme qui interrompt son intervention, mais ne l'y fait pas renoncer. « Tu as bien tort de te figurer que je t'en voudrais le moins du monde, Odette, » lui dit-il avec une douceur persuasive et menteuse. « Je ne te parle jamais que de ce que je sais, et j'en sais toujours bien plus long que je ne dis. Mais toi seul peux adoucir par ton aveu ce qui me fait te haïr tant que cela ne m'a été dénoncé que par d'autres. Ma colère contre toi ne vient pas de tes actions. Je te pardonne tout puisque je t'aime, mais de ta fausseté absurde qui te fait persévérer à nier des choses que je sais. Mais comment veux-tu que je puisse continuer à t'aimer quand je te vois me soutenir, me jurer une chose que je sais fausse ? Odette, ne prolonge pas cet instant qui est une torture pour nous deux. Si tu le veux, ce sera fini dans une seconde. Tu seras pour toujours délivré. Dis-moi sur ta médaille si oui ou non tu as jamais fait ces choses. « Mais je n'en sais rien, moi, » s'écria-t-elle avec colère. « Peut-être il y a très longtemps, sans me rendre compte de ce que je faisais. Peut-être deux ou trois fois. »